On poursuit notre étude de l'israélologie et notamment de ce qui concerne la théologie de la substitution dans l'histoire de l'Église. Et on était arrêté justement à la réforme, l'attitude des réformateurs dans ce domaine-là. Calvin, sur lequel nous étions restés la dernière fois, a reçu d'Augustin son point de vue général sur Israël, même si, à cause du fait qu'il croyait en la prédestination, il ne pensait qu'il pouvait y avoir et qu'il y avait au sein du peuple d'Israël, comme dit l'apôtre Paul, un reste selon l'élection de la grâce. Mais les réformateurs ont continué à croire que l'Église avait remplacé Israël. Ils ont continué à professer la théologie de la substitution, de sorte que pour eux, il n'y a pas d'avenir pour Israël, si ce n'est que de rejoindre l'Église à titre individuel. L'ouvrage de référence de Calvin, pour qui veut étudier la théologie de Calvin, c'est bien entendu l'institution chrétienne. Et dans l'institution chrétienne, où il expose non pas tant une doctrine d'Israël à laquelle il ne s'intéresse pas directement, mais justement sa théologie de la grâce, il est amené à toucher justement à la question d'Israël. Et dans cette institution notamment, on peut mettre en évidence 5 erreurs fondamentales de Calvin en ce qui concerne justement Israël. La première, c'est l'idée que l'alliance de la Torah renferme tous les hommes sous la condamnation. Ça, c'est un des principes que le protestantisme en général a adopté sans la moindre nuance jusqu'à nos jours. Et ce faisant, chaque être humain est un juif qui se trouve en quelque sorte condamné par la Torah jusqu'au moment où il décide de trouver son salut en Jésus. Une telle affirmation, pour répandue qu'elle soit, est absolument antibiblique. Il suffit simplement de lire Romains 3, verset 19, pour s'en rendre compte, où Paul nous dit ceci. « Nous savons que ce que dit la Torah, elle le dit de ceux qui sont sous la Torah. » Point final. Il n'y a pas besoin d'épiloguer davantage. Or, les païens n'ont jamais été sous la Torah. Allez voir un pygmée dans la brousse africaine, un esquimau dans le grand nord canadien, un indien au Pérou. Jamais ces gens-là n'ont été sous la Torah. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'alliance de la Torah a été conclue uniquement avec Israël. Point. Jamais avec les païens. Là, on pourrait mettre une multitude de textes les uns après les autres, notamment dans le livre des psaumes. Ça, comment Dieu donne sa Torah à Israël, il n'a pas agi ainsi pour les autres nations, elles ne connaissent pas Dieu. Bon, Romains également 3, ça, ceux qui ont vécu sans la Torah périront sans la Torah. Seront jugés sans la Torah. Très simple. Et jamais, justement, dans son prologue de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul ne laisse supposer un seul instant que les païens dont il parle, justement, dans le chapitre 1, puissent avoir jamais été sous la Torah. Donc là, première erreur fondamentale, on pourrait dire, de Calvin. Non seulement les païens n'ont jamais été sous la Torah, mais même, nous dit l'apôtre Paul, toujours dans l'Épître aux Romains, les patriarches n'étaient pas sous la Torah. Car la Torah, et c'est ce que rappelle l'apôtre Paul explicitement dans l'Épître aux Romains, a été donnée 400 ans après l'appel d'Abraham. Alors dire tous les hommes sont enfermés sous la Torah, c'est une généralisation hâtive. C'est une erreur qui est restée dans notre théologie, dans notre hymnologie en particulier. Il y a un chant que nous ne chantons jamais pour cause, qui nous dit ceci, « Seigneur du fardeau de la loi », c'est pas « J'ai été, tu m'as délivré » en quelque sorte. Et le thème du cantique est « Je ployais sous le joug des commandements, du poids, n'est-ce pas, de ces commandements, et quand je me suis tourné vers Jésus, j'en ai été libéré. » Vous avez ça plus ou moins aussi chez Bunyan, dans son voyage du pèlerin. La Torah qui est là, qui condamne, bon, jusqu'au moment où le chrétien découvre le salut qui est en Jésus-Christ à la croix. Bon, ça, c'est Calvin qui nous a, pardonnez-moi l'expression, fourgué ça. Bon, deuxième erreur de Calvin, l'idée, alors là, ce qui lui est spécifique, enfin qu'on trouve aussi donc chez certains pères de l'Église, mais que Calvin a beaucoup mis en exergue, c'est l'idée que l'Église a toujours existé à toutes les époques. Et il fait une généralisation hâtive d'un texte qu'on trouve dans le chapitre 7 du livre des Actes, dans le discours d'Étienne devant le Sanhédrin, quand il nous parle donc de l'Ecclesia en Eremu, l'assemblée du désert. C'est lui qui, dans l'assemblée du désert, cet ange qui avait donné la Torah à Moïse, qui dans l'assemblée du désert. Bon, Ecclesia, donc en grec, l'assemblée Ecclesia, peut aussi se traduire, bien évidemment, par église. Donc, nous dit Calvin, il y avait une église dans le désert. Autrement dit, le peuple d'Israël formait, constituait une église. Et pour Calvin, l'église remonte au moins à la vocation du peuple d'Israël, et même, certains calvinistes purs et durs la font remonter jusqu'à Adam. Il y a toujours eu une église. Et ça, c'est la théologie de la grâce chère à Calvin. Dans toutes les époques, il y a un reste, selon l'élection de la grâce, depuis les origines, ça, sur ce plan-là, il a raison. Et qu'est-ce que c'est que la véritable église? Sinon, justement, ce petit reste, ces élus. Si donc, à toutes les époques, il y a un reste, c'est donc qu'il y a une église à toutes les époques. Pendant la dispensation de l'Ancien Testament, nous dit Calvin, l'Église s'est confondue avec le peuple d'Israël. Puis, quand le peuple d'Israël a rejeté Jésus, eh bien, l'Église s'est dissociée d'Israël. Et maintenant, l'Église se trouve en dehors d'Israël. Avant, elle se trouvait à l'intérieur d'Israël. Maintenant, elle se trouve séparées, différentes d'Israël. Cette idée est aussi anti-biblique. Il faudrait notamment relire l'Épître aux Éphésiens, par exemple Éphésiens 2, verset 15, et puis même avant, constater que jamais, jamais, même dans les Évangiles, il n'est fait allusion à l'Église, si ce n'est en deux endroits. Le premier, Matthieu 16, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Mais ce texte est très intéressant, car il nous montre que l'Église est une réalité future. Je bâtirai mon Église. Ça veut dire, pour l'heure, cette Église, elle n'existe pas. Bon, deuxième texte, c'est sur la discipline. Si celui que tu as repris en présence d'anciens ne t'écoute pas, dis-le à l'Église. Là, Jésus n'explicite pas davantage. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul est infiniment plus précis, et il nous dit ceci, que l'Église était le mystère caché en Dieu de tout temps. Et que ce mystère n'a pas été révélé avant ce temps-ci, il n'a pas été révélé notamment aux prophètes de l'Ancienne Alliance, mais il ne l'a été que dans ces temps-ci, aux saints apôtres et prophètes du Messie. Et finalement, Paul est encore un peu plus précis. Il laisse entendre que celui qui a eu la révélation de l'Église, c'est lui. Vous pouvez vous rendre compte, dit l'apôtre Paul, en lisant les quelques mots que je vous écris à ce sujet, la profondeur de la connaissance qui m'a été donnée, de la grâce qui m'a été faite, à moi, qui suis le moindre des saints, de pouvoir mettre en évidence ce mystère caché en Dieu de tout temps et révélé maintenant. Ce mystère, c'est que justement dans l'Église, païens et juifs ne forment plus qu'un seul corps. Voilà. Voilà la grande nouveauté, voilà ce qu'est l'Église. Auparavant, Israël était une entité fermée, séparée. Il y avait Israël et les nations. Maintenant, il y a une réalité ouverte. Israël qui était fermé aux nations, la révélation qui était fermée aux nations, maintenant, c'est ouverte aux nations. Maintenant, que l'Église ne se confonde pas avec Israël, c'est une évidence quand on dit justement aussi ce que Paul écrit aux Corinthiens. Il leur dit ceci, vous savez, quand il parle de se faire tout à tous, « Ne soyez en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église du Messie. » Très intéressant comme expression. Car, ici, Paul fait une différence entre trois entités. Les Juifs, Israël, les païens et l'Église. Il ajoute une troisième entité, l'Église. Et en mettant donc l'Église comme une entité séparée des Juifs, il montre que l'Église ne s'identifie pas du tout à Israël. L'Église est une réalité différente d'Israël. Et prétendre avec Calvin que dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, chaque fois que nous lisons Israël ou les Juifs, sauf bien entendu quand c'est des malédictions, il faut lire l'Église est quelque chose qui, bibliquement, ne se tient pas. Comme nous l'avons vu, le seul texte qui pourrait être invoqué en cette faveur, en faveur de cette thèse, c'est le texte des Galates, n'est-ce pas ? Paix à tous ceux qui suivent cette règle et à l'Israël de Dieu. Bon. Alors, là, la plupart des commentateurs sont unanimes à dire que l'Israël de Dieu, ce n'est pas l'Israël normal. Donc, ça ne peut être que l'Église. Ceux qui suivent cette règle, c'est-à-dire tout ce que Paul vient d'exposer, ce qu'il a exposé à l'Église. Oui, seulement, on ne lit pas suffisamment le texte d'assez près. Paix à ceux qui suivent cette règle et à l'Israël de Dieu. Ce petit mot est très important. Car ce « et » fait une différence entre l'Israël de Dieu et ceux qui suivent cette règle. Car si Paul avait voulu identifier les deux entités, il aurait écrit « paix à ceux qui suivent cette règle, deux points, l'Israël de Dieu. » Ou encore « paix à ceux qui suivent cette règle, c'est-à-dire l'Église de Dieu, c'est-à-dire l'Israël de Dieu. » Mais Paul, ici, par le « et », fait une différence entre ceux qui suivent cette règle, l'Église à laquelle il vient de s'adresser, et l'Israël de Dieu. Alors pourquoi l'Israël de Dieu ? Eh bien, justement, parce qu'il explique aux Romains, au sein du peuple d'Israël, il y a un reste. Ça veut dire qu'il y a des Juifs qui ont cru en Jésus, et qui, tout en ayant reçu Jésus, continuent à être Israël, et même sont la partie la plus importante d'Israël, puisqu'ils sont l'Israël de Dieu. Troisième Alors, oui, point aussi très important. Donc, l'Église n'existe pas sous l'Ancienne Alliance, ça c'est évident. Mais cette assimilation de Calvin lui permet de défendre la vision qui est la sienne de l'Église multitudiniste, c'est-à-dire cette Église qui comprend convertis et inconvertis. De la même manière que le peuple d'Israël, de, entre guillemets, l'Ancien Testament, était un peuple qui avait à la fois l'Israël de Dieu et finalement les autres. Ça veut dire ceux qui étaient fidèles à l'Alliance et ceux qui n'étaient pas. Il y avait mélange des deux. Ça, la Bible nous en donne un témoignage assez clair. Dans la mesure où, justement, l'Église est un remake de l'Israël ancien, eh bien, l'Église est une réalité multitudiniste, comme l'était le peuple d'Israël. Et Calvin, par exemple, assimile le baptême des enfants à la circoncision. De la même manière qu'on entrait dans le peuple d'Israël par la circoncision, donc par la naissance, on entre dans l'Église par le baptême d'enfants, donc par la naissance. Et ensuite, Dieu fait le tri entre les vrais et les faux, entre les convertis et les inconvertis. Et c'est pourquoi l'idée d'une Église de l'Ancien Testament est essentielle au système de Calvin, car elle établit justement sa vision multitudinaire de l'Église et ensuite justifie sa gestion de Genève comme une théocratie. Car si l'Israël ancien est une théocratie, l'Église doit elle aussi être une théocratie. Alors vous voyez, ça va très loin. Troisième erreur, l'alliance avec Abraham, puis avec Moïse, a été faite donc avec l'Église. Et le peuple qui a été libéré d'Égypte est l'Église. Ben oui, c'est Israël et l'Église, et que c'est l'Église et Israël, donc il y a une continuité. Alors bien sûr, Calvin reconnaît que dans l'Israël infidèle de son temps, il y a un reste selon l'élection de la grâce, c'est même très important pour lui, mais dans les faits, dans la réalité, il ignore ce reste. Aucun théologien n'a poussé aussi loin la théologie de la substitution que ne l'a fait Calvin, à cause justement de cette assimilation de l'Église avec Israël. Et finalement, dans le système de Calvin, on arrive à cette idée qu'aujourd'hui, l'Église n'est plus constituée que de païens. Et que les Juifs éventuels qui rentreraient dans l'Église, à titre individuel, bien entendu, cessent d'être Juifs quand ils rentrent dans l'Église et deviennent des païens. Ce qui est l'idée de la plupart des Églises encore aujourd'hui, y compris des Églises évangéliques, qui sont bâtis sur la théologie de Calvin sans le savoir. Bien. Quatrième erreur. Pour Calvin, l'olivier de Romains 11 est non pas Israël, mais Jésus. Et par conséquent, les branches retranchées sont Israël. Maintenant, Calvin, nous l'avons vu, a une vision multitudiniste de l'Église. Par conséquent, ce qui a été détaché, les branches naturelles, c'est le peuple d'Israël en tant que peuple. Et les branches sauvages qui ont été greffées, c'est l'Église en tant qu'entité et non pas en tant qu'individu. Ce qui est doublement faux quand on lit attentivement ce texte de Paul, car il est clair que pour l'apôtre Paul, l'olivier, c'est Israël. Les racines sont les patriarches. Et que les branches, qu'elles soient naturelles ou non, sont soit retranchées, soit greffées à titre individuel et non pas à titre collectif. Et ça, c'est fondamental, parce que justement, c'est en principe le salut par la foi. Mais bon, Calvin mettait la grâce avant la foi. Ça veut dire le choix arbitraire de Dieu qui ensuite communique la foi comme il l'entend. Et c'est ainsi, par exemple, que Calvin déclare qu'un homme comme Jacob a été greffé dans l'Église, greffé sur cet olivier, alors qu'il en est la racine, selon Paul, une des racines, avec Abraham et Isaac. Et là, on voit que Calvin déraille totalement. Hein. Et il va même jusqu'à dire que les anges sont aussi membres de l'Église. Alors, ça va loin. Hein. Enfin, cinquième erreur, je ne m'y attarde pas parce que nous l'avons déjà vu, il n'y a pas de millénium, mais au moment de la fin, de la parousie du Seigneur, on entre directement dans l'état éternel. Voilà. Bon, le système de Calvin, qui est très systématisé, pourrait-on dire, très, très élaboré. Calvin est un homme, est un docteur très méticuleux, très rigoureux. Et le raisonnement est absolument rigoureux. Dès qu'on en accepte les prémices, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Et finalement, le système calviniste, l'israélologie calviniste, est peu ou prou l'israélologie de la plupart des églises protestantes, y compris évangéliques, jusqu'à nos jours, même celles qui, au XIXe et XXe siècle, ont intégré dans leur théologie l'idée d'un retour d'Israël dans son pays. On n'est pas allé néanmoins jusqu'à remettre en cause la théologie de Calvin. Bon, cette théologie, quand on la voit, par exemple, au niveau d'église évangélique, n'est peut-être pas aussi systématique ni élaborée que ce que je viens de dire. Mais finalement, quand on gratte, en filigrane, sous-jacent, c'est finalement ce qui ressort de ce que le chrétien moyen pense et que le pasteur moyen aussi pense. Un autre ouvrage très important, datant de l'époque de la Réforme, c'est le commentaire de Luther sur l'Épître aux Romains. C'est un des ouvrages aussi principaux de Luther, parce que c'est en gros l'équivalent de l'institution chrétienne. Et Luther, qui a écrit d'ailleurs ce commentaire avant l'affichage des thèses sur les portes de la cathédrale, n'est-ce pas ? Donc c'est un texte qui est ancien, hein, avant donc les prises de parti antisémites de Luther. C'était l'époque où Luther était encore ouvert aux Juifs et à Israël. Et voilà ce qu'on dit donc en ce qui concerne les Juifs. Ils sont ennemis de Dieu. Et on prend le texte de Paul, mais en le tirant de son contexte. Hein, à cause de vous, ils sont haïs, mais à cause de leur Père, ils sont aimés. Bon, là aussi, vous savez comment en hébreu les mots haïr et aimer ne sont pas à prendre à l'absolu comme ils le sont dans nos langues, et que celui qui haïra son père, sa mère, sa femme et ses enfants, etc. Bon, celui qui ne hait pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants n'est pas digne de moi. Bon, on sait bien qu'il n'est pas question de prendre ce texte à la lettre. Hein. Ils sont haïs, ça veut dire ils sont dans une situation d'inimitié, ils sont dans une situation d'hostilité. Mais ils continuent à être choisis par Dieu, à être peuple de Dieu, c'est ça que l'apôtre Paul dit. Or, justement, Luther tire cette portion de verset de son contexte et l'absolutise. Bon, il fait ce que faisait l'Inquisition, finalement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils sont ennemis de Dieu. Voilà. Dieu les hait parce qu'ils ont haï les apôtres et ils haïssent tous ceux qui aiment Dieu véritablement. Et Luther se garde bien de dire qu'ils restent aimés de Dieu à cause de leur père. Si les Juifs sont haïs de Dieu, les véritables enfants de Dieu doivent aussi haïr les Juifs. C'est QFD. Ça tombe sous le sens. Bon. Et Luther va s'y employer. Hein. Par conséquent, et là nous retrouvons ce que nous disions la dernière fois, pour Luther, les Juifs sont comme les papistes, des hérétiques. Or, ils sont hérétiques parce qu'ils s'attachent, comme les papistes, à la loi. Mais la loi est abolie. Il faut oublier la loi. Il faut même, dit Luther dans cet écrit, oublier qu'il y a eu un Moïse et qu'il y a eu une loi. Marcion n'aurait pas dit mieux. Alors que pour Paul, c'est tout à fait différent. À cause justement de l'Israël de Dieu, à cause du reste, Israël reste potentiellement le peuple de Dieu, même dans son endurcissement, dans son incrédulité. Et Israël sera sauvé à cause de ses pères, nous dit l'apôtre Paul, et à cause justement de la vocation des promesses que Dieu fait, qui sont sans appel et sont sans repentance. Et c'est pourquoi Jules Isaac a eu raison de dire que Luther a été le théologien de la Shoah. Il est absolument indiscutable, et Jules Isaac l'a bien démontré, que la théologie de Luther, qui s'est infiltrée au sein du peuple allemand, a contribué à préparer les esprits à l'idée d'une élimination physique des Juifs, ennemis du genre humain. Voilà, donc ça c'est la réforme. Nous avons parlé en histoire d'Israël, la dernière fois, du mouvement philosémite. Mouvement philosémite qui est contemporain, pourrait-on dire, du mouvement puritain. Et le mouvement philosémite a pour père essentiellement un certain Ian Murray, qui a revu et remis en évidence l'importance des prophéties bibliques et particulièrement des prophéties d'Ancien Testament. Prophéties d'Ancien Testament, nous avons vu, qui jusqu'alors, jusque donc au XVIIe siècle, était interprété comme se référant à l'Église. Partout où il était question d'Israël, quand il s'agissait bien sûr de bénédiction, il fallait dire l'Église. Et partout où il était question d'Israël, quand il s'agissait de malédiction, il fallait que ça reste bien sûr à Israël. Murray a été le premier à se rendre compte du caractère absurde de ce type d'exégèse. Il a fait une remarque, première remarque pertinente, c'est que dans le cas des bénédictions comme dans le cas des malédictions, c'est de la même entité qu'il est question. Donc de deux choses l'une. Ou bien les bénédictions sont pour l'Église, mais les malédictions le sont aussi. Ou bien si les malédictions sont pour Israël, les bénédictions le sont aussi. Murray a fait une deuxième constatation, celle que nous avons remarquée tout à l'heure. C'est qu'avant la Pentecôte, il n'est pas question d'Église. Et que par conséquent, rien ne nous autorise à appliquer les prophéties de l'Ancien Testament à l'Église. Mais au contraire, tout nous permet de croire, et notamment les écrits de Paul dans l'Épître aux Romains, que les prophéties de l'Ancien Testament, y compris celles qui concernent la restauration d'Israël, s'appliquent à Israël et non pas à l'Église. Il y a donc eu une réévaluation de l'interprétation de l'Ancien Testament de la part justement des philosémites. Murray a fait aussi une autre constatation. C'est que la parousie n'aurait lieu que au retour, que lorsque le monde entier aurait été évangélisé. Il a très correctement vu que l'endurcissement d'Israël était une réalité permise par Dieu pour permettre l'évangélisation des païens, pour permettre l'évangélisation du monde entier. Et Murray a été le premier à remarquer ce que Paul nous dit justement dans cet épître aux Romains, chapitre 11, que cet endurcissement d'Israël durera jusqu'à ce que soit entré, sous-entendu dans l'Église, le plérôme des païens, pléroma en grec, c'est-à-dire la plénitude des païens, la plénitude de ceux qui doivent se convertir. Et il a mis ce texte en parallèle avec un autre texte de l'Évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier, alors viendra la fin. Aimeré s'est dit ceci. Si nous voulons hâter ce qu'il appelait improprement, mais enfin c'était déjà un progrès quand même, la conversion d'Israël et la parousie, ben, peut-être que ce n'est pas tant les juifs qu'il faudrait évangéliser que les païens. Mieux vaut laisser les juifs de côté, de toute façon ils sont endurcis, ça ne sert à rien pour l'heure de les évangéliser, mais il faut évangéliser les païens. Et l'idée d'un élan missionnaire, d'une évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre, a pris naissance à partir de cette constatation-là, dans justement les cercles puritains. Et cette expansion missionnaire, qui a marqué essentiellement le 19e et le 20e siècle, que nous sommes en train d'étudier en histoire de l'Église d'ailleurs, c'est ça, a son origine dans cette idée qu'on trouve chez Paul. C'est pourquoi, dit-il, je glorifie mon ministère auprès des païens pour exciter la jalousie de ceux de ma race. Ça veut dire que plus les païens se tourneront vers Jésus, plus nombreux seront les païens à se tourner vers Jésus, plus le peuple d'Israël sera interpellé par le christianisme. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce que c'est exactement ce que nous constatons dans ce siècle. N'est-ce pas ? Là, Murray avait vu absolument juste. Exactement, il avait simplement relu Paul. Ce que personne n'avait fait avant lui depuis longtemps, en tout cas. Et donc, le philosémitisme a conduit à l'évangélisation du monde. Murray n'était pas sûr qu'il y aurait une restauration nationale d'Israël. Et les textes relatifs à la restauration nationale d'Israël, il se demandait jusqu'à quel point il fallait quand même les spiritualiser. Mais il croyait que n'importe comment, à la fin du temps des nations, du temps de grâce donné aux nations, il y aurait une restauration d'Israël à un niveau ou à un autre, en tout cas certainement au niveau spirituel, peut-être même au niveau national, au niveau temporel. C'est très intéressant parce que Murray n'avait pas redécouvert la doctrine du millénium. Au XVIIe siècle, cette idée se répand. Et avec des nuances, des avancées, des reculs, on commence à poser l'idée qu'effectivement une restauration nationale d'Israël est à envisager. Et en tout cas, un salut final d'Israël en tant que tel. Donc, c'est tout le système des Pères de l'Église et c'est tout le système de Calvin qui est remis en question. Et c'est quelque chose qui va se transmettre des puritains à l'aile évangélique qu'elle va marquer. Et c'est le cas notamment aux États-Unis, où les puritains vont avoir une grande influence. Maintenant, si nous parlons de l'époque contemporaine, il y a ces deux courants qui continuent à exister. Le courant philosémite se trouve essentiellement dans des milieux évangéliques, mais pas seulement. On le retrouve aussi dans des églises traditionnalistes. Mais quoi qu'il en soit, et notamment à la fin du XXe siècle, ce courant, sous la pression des événements, de deux événements, la chute du mur de Berlin d'une part, et puis ensuite, on dirais-je, la mauvaise presse qui a été faite à Israël avec le soulèvement des Palestiniens, ce courant est largement minoritaire. Le courant le plus majoritaire reste le courant héritier de saint Augustin et de Calvin que nous avons évoqué, celui de la théologie du remplacement. Et toutes les théologies, quelque peu élaborées, tous les théologiens, les grands théologiens mis grands entre guillemets, eh bien, ont une interprétation de l'Écriture qui commence par le Nouveau Testament Et quand on a établi une doctrine dans le Nouveau Testament, on cherche une justification dans l'Ancien Testament. Ça, c'est la démarche classique en théologie. Lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Le Nouveau Testament. On commence par lire le Nouveau Testament. D'ailleurs, on conseille aux nouveaux convertis toujours de faire comme ça. Lisez, commencez par lire le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, vous n'y comprendrez rien. Il y a des guerres, il y a le peuple d'Israël, il y a des généalogies fastidieuses, etc. Commencez par le Nouveau Testament, puis ensuite, par petite dose, lisez l'Ancien. Certains chrétiens ne lisent d'ailleurs que le Nouveau Testament. Ce n'est pas sans raison, par exemple, que on vend des Nouveaux Testaments qui sont complètement indépendants de l'Ancien, n'est-ce pas ? Notamment, justement, pour les nouveaux convertis. Ce n'est pas simplement pour des raisons pécuniaires, financières, parce que c'est le Nouveau Testament étant un plus petit livre, c'est plus facile de l'éditer et donc de le diffuser. Mais c'est aussi pour des raisons théologiques, parce que, finalement, l'Ancien Testament est ancien, quoi. Il est obsolète, il est dépassé, il n'est plus d'actualité. Il est bon, simplement, encore une fois, à justifier ce que l'on trouve dans le Nouveau. Et quand on ne trouve pas de justification de doctrine que l'on a cru pouvoir établir à partir du Nouveau, dans l'Ancien, ben on ne cherche pas de justification du tout. Il n'y a même pas besoin qu'il y ait une justification par l'Ancien. Alors si les apôtres revenaient, ils feraient des bons énormes, parce que finalement il y a des doctrines chrétiennes qui sont comme des espèces d'électrons libres qui sont suspendus dans le vide, qui n'ont strictement aucun sous-basement scripturaire véritable. Ces théologies sont des théologies qui sont quasiment généralisées dans la plupart des grandes églises. Et les théologies libérales, elles-mêmes, sont aussi les héritières de ce type de démarche. Que ce soit les théologies, les théologies libérales du 19e, du début du 19e, que ce soit les théologies issues de Bultmann et post-Bultmanniennes, qui sont des théologies plus modernes, que ce soit Barthes, encore que Barthes, et peut-être était celui qui ait cherché le plus à établir ses doctrines sur des sous-basements bibliques, mais il fait quand même la même pétition de principe au départ. D'abord le Nouveau Testament, et ensuite essayer de trouver des justifications dans l'Ancien. Et puis si on n'en a pas, ben ça fait rien. Et toutes les théologies contemporaines sont finalement basées sur la théologie de la substitution. Toutes ces théologies contemporaines, aussi bien chez Brunner, chez les théologies actuelles, n'est-ce pas, y compris celles de la mort de Dieu, et c'était évident, sont basées justement sur la théologie de la substitution. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que la théologie de la substitution n'est pas quelque chose à part. Et c'est pourquoi nous avons des raisons de nous y arrêter, n'est-ce pas, parce que justement de son adoption ou de son rejet, de son adoption ou de sa remise en question, eh bien, dépend toute une théologie. Car une théologie qui est basée sur un principe qui est erroné conduira automatiquement à des errances. Et aujourd'hui, les errances dans lesquelles sont tombées la théologie moderne doivent beaucoup, pour une très grande part, au fait qu'elles ont adopté sans nuance la théologie de la substitution, sans chercher à la remettre véritablement en question. Et le palestinisme, la théologie palestinienne que nous avons étudiée il y a quelque temps, passe d'autant plus facilement dans les grandes églises modernes que, justement, elles ont été préparées à ce type de démarche, à ce type de réflexion, par la théologie de substitution qu'elles ont héritée. Alors, on a remis en question ce qui était juste dans les théologies anciennes, les grandes doctrines sur l'inspiration de la Bible, sur la sotériologie, sur l'éthique. C'est-à-dire que ce qui était bon, on l'a mis de côté, et ce qui était mauvais, la théologie de la substitution, on ne s'est même pas penché sur le problème. Pourquoi ? Pour une bonne et simple raison. C'est que la question d'Israël n'intéresse pas. Pourquoi s'attarder sur la question d'Israël, puisque de toute façon, comme disaient les pasteurs évangéliques à notre frère Del Cosso, Israël n'existe plus. Israël n'existe plus en tant que tel. Oui, mais l'État d'Israël... Ah oui, l'État d'Israël, ça n'a rien à voir avec l'Israël ancien, ça c'est un avatar de l'histoire. Alors, la théologie de la substitution a fait des dégâts énormes. En fin de compte, il nous faut revenir à ce que nous dit l'Écriture à ce sujet-là, et revenir essentiellement à la vision de l'Olivier. Romains 11. Où l'apôtre Paul nous dit une chose fondamentale. Et ça, le monde chrétien l'a complètement oublié. Ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Tout se passe aujourd'hui dans le monde chrétien, si c'était l'inverse. La priorité mise au Nouveau Testament sur l'Ancien, c'est ce renversement même de perspective. C'est toi qui porte la racine. La racine, qu'est-ce que c'est la racine? Là aussi, l'apôtre est très clair. Et il faudrait reprendre ce que nous dit Ésaïe, dans le chapitre 51. Portez les regards vers Abraham, votre père. Voilà. Ils sont aimés à cause de leur père. D'une manière très claire, Paul nous montre que les racines, ce sont les patriarches. Or, les théologiens de toutes les époques, y compris les théologiens modernes, sont partis de l'idée des pères de l'Église que finalement, Paul était plus grec que juif, était plus philosophe que théologien, était plus platonicien que pharisien, disons. Et finalement, cette idée est tellement ancrée chez la plupart des théologiens, cette idée que Paul doit au moins autant à la philosophie grecque, à la philosophie de Platon et d'Aristote, que à la pensée des prophètes, ou des sages d'Israël, ou de Gamaliel, etc., que même les juifs croient ça. Et aujourd'hui, dans le monde juif, on considère Jésus comme un juif fidèle et pieux, mais Paul comme un véritable traître, parce qu'il a abandonné la religion de ses pères pour adopter une religion étrangère, pour adopter la philosophie des païens. Et dans toutes les facultés de théologie du monde, on étudie Paul à travers, justement, une approche hellénistique à travers d'une philosophie grecque. C'est vrai. Maintenant, une chose très intéressante. Quand nous lisons Paul, en dehors de ses préjugés, de ses a priori, nous constatons dans l'Épître aux Corinthiens, premier Épître aux Corinthiens en particulier, chapitre 8, quand il parle, vous savez, des viandes sacrifiées aux idoles, l'apôtre Paul prend des exemples tirés de l'histoire d'Israël. Bon. Dans cet épître, Paul s'adresse à des non-juifs. Et ça, c'est très intéressant. Et il leur dit ceci. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à nos pères. Nos pères ont été sous la nuée. Ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous bu et mangé l'aliment spirituel qui les suivait, le rocher qui les suivait, et ce rocher était le Messie. Ah, vous allez me dire, Calvin a raison. Non. Non, non, pas du tout. Finalement, Paul veut dire une chose très intéressante. Il ne dit pas qu'il y avait une église dans le désert. Mais il dit une chose, c'est que les païens, par la foi, deviennent fils d'Abraham et finalement sont hantés sur l'olivier d'Israël. C'est ça. Dans les Corinthiens, il ne fait que redire d'une autre manière ce qu'il dit dans Romains 11. Vous avez été greffés sur l'olivier d'Israël. Parce que vous êtes devenus, et ici dit ça aux Galates aussi, or s'il est une épître que l'on qualifie d'antinomiste, c'est bien l'épître aux Galates quand même. Et Paul nous dit ceci, que l'Esprit Saint a été donné aux païens, de telle sorte que les promesses faites à Abraham puissent aussi devenir l'apanage des païens. Et que comme le Seigneur lui avait promis, Abraham devient le père d'une multitude de peuples. Ça veut dire quoi? Portez les regards vers Abraham, votre père. Ça veut dire que par la foi, le peuple d'Israël devient leur racine. Qu'Abraham devient leur père par la foi. Et chaque fois qu'il s'adresse aux païens, Paul emploie l'expression qu'on emploie encore aujourd'hui chez les juifs. Abraham avinu, Abraham notre père. Vous, les païens, qui avez cru en Jésus, vous pouvez dire, vous devez dire, Abraham, notre père. Abraham est devenu votre père. Et ce n'est pas seulement Abraham. Mais c'est toute l'histoire d'Israël qui devient votre histoire. Et c'est pourquoi les Israélites qui sont sortis d'Égypte, Paul, quand il s'adresse à des païens, dit, nos pères à nous, juifs, et vos pères à vous, païens. Parce que ces gens-là étaient nos pères à nous, juifs, mais ils sont aussi devenus par la foi vos pères à vous, païens. Alors, voyez-vous, c'est très intéressant. Parce que Paul, ici, partout, comment dirais-je, respire ce qu'il explique dans la parabole de l'olivier. N'est-ce pas ? Les païens sont un avec le peuple d'Israël. Alors, ils sont le peuple d'Israël? Non, ils ne sont pas le peuple d'Israël. Comme nous l'avons vu, ils sont un Commonwealth. Comme les Australiens sont vis-à-vis des Anglais, ou les Canadiens, ou les Néo-Zélandais. C'est leur histoire. C'est leur père. La reine, c'est leur reine. L'anglais, c'est leur langue. Mais ils sont Canadiens. Mais ils sont Australiens. Mais ils sont Jamaïcains. Et pourtant, ils appartiennent au Commonwealth britannique. Et bien voilà, c'est la situation des païens. Alors, ça veut dire que le sort de l'Église est inséparable du sort d'Israël. Bon, la parabole de l'Olivier, si on avait le temps, elle s'inscrit déjà dans des textes de l'Ancien Testament, Jérémie 11, verset 16, Osée 14, verset 6, Psaume 52, verset 8, etc. Hein? Et là, Paul nous dit une chose très intéressante. L'Église n'existe pas, l'Église des païens, n'existe pas indépendamment d'Israël. Voilà. Ça, c'est la grande réalité. Sinon, si elle cesse d'être dépendante d'Israël, si elle cesse d'être en symbiose avec Israël, elle n'est plus qu'une organisation religieuse parmi d'autres. Et elle sort du plan de Dieu, ce qu'elle est. Elle est comme une branche coupée du tronc. Elle se dessèche, elle meurt. Alors à ce moment-là, elle fait des emprunts à toutes sortes d'autres cultures. Vous allez me dire, est-ce que la Bible n'a pas fait ça aussi? Oui, dans toute son histoire. Mais pas forcément pour apporter son approbation. Tandis que l'Église l'a intégrée, elle. Or, justement, le drame, c'est que l'Église s'est considérée comme étant elle-même l'olivier. C'est ça le drame. Et elle considère que ses racines sont helléniques, philosophiques. Que finalement, la préparation évangélica, nous avons vu ça il y a quelque temps, la préparation à l'évangile, ça sont été justement les grands philosophes grecs. C'était la pensée d'un Justin Martyr au IIe siècle, c'est la pensée d'un Thomas d'Aquin, donc c'est la pensée de l'Église catholique officielle et accessoirement des réformateurs qui n'ont pas remis ça en question. Luther et Calvin, nous l'avons vu, n'est-ce pas ? Et quand l'Église se prend elle-même pour l'olivier, elle devient exactement l'antithèse d'Israël. Elle devient le contraire d'Israël. Alors ça nous amène à une autre constatation. Si véritablement Israël est la racine qui nous porte, si véritablement Abraham est notre père, si véritablement les ancêtres du peuple d'Israël et son histoire sont nos ancêtres et notre histoire, par la foi. Alors il y a une conclusion pratique à laquelle on arrive inévitablement. C'est qu'étudier la Bible, c'est acquérir une mentalité biblique, hébraïque. Et ça, c'est très difficile. Parce qu'à toutes les époques, cette mentalité biblique et hébraïque était tellement différente de la culture ambiante qu'elle était rejetée. Et c'est plus vrai de nos jours que ça n'a jamais été. Aujourd'hui, notre société moderne rejette toutes les valeurs bibliques et hébraïques. Et c'est une des raisons de l'antisémitisme, c'est une des raisons de l'antisionisme, et c'est une des raisons de la dérive des églises, qui, voulant l'approbation du monde, croient qu'elles vont obtenir cette approbation en dénigrant Israël, en dénigrant sa culture, en dénigrant sa Bible, comme vient de le faire le journal Ouest France il y a quelque temps. Tout ça, c'est un tout. Et finalement, le libéralisme dont nous parlions tout à l'heure, c'est une forme d'anti-judaïsme. C'est une forme d'anti-judaïsme. Bultmann, c'est une forme d'anti-judaïsme, donc d'antisémitisme. Tout ça, c'est un tout, vous comprenez. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Pierre nous dit une chose très intéressante aussi. Dans ses épîtres, il dédie sa première lettre, une de ses lettres, sa première lettre, aux croyants non-juifs qui sont dans la diaspora. Ah ! Et cette expression a tellement intrigué qu'on s'est parfois demandé si les destinataires de l'épître, des épîtres de Pierre n'étaient pas des juifs qui avaient cru en Jésus. Finalement, quand on lit attentivement ces lettres, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Mais Pierre adopte exactement le même point de vue que Paul. Les païens qui ont cru en Jésus ne sont plus des païens. Ils appartiennent à une autre réalité, à une autre entité. Et ils sont liés au sort du peuple d'Israël, jusqu'y compris dans leur manière d'être dispersés dans toutes les nations, comme l'est le peuple d'Israël. De la même manière qu'il y a une diaspora juive, il y a une diaspora chrétienne. Et quand nous lisons Paul, et là je reviens à ce que nous disions tout à l'heure, Paul juif ou grec, je crois qu'il y a un livre qui est apparu avec ce titre. C'était très intéressant, ça montre le dilemme. Paul juif ou grec. Bon, Paul était un personnage complexe, ça n'est pas question de le nier. Mais en tout cas, il est clair, quand nous lisons attentivement Paul, en dehors justement des lunettes qu'on nous a mises sur le nez depuis des siècles, et dont on a le plus grand mal à se débarrasser, que Paul voyait dans le christianisme un aspect de sa religion ancestrale, une autre étape de son développement historique, et non pas quelque chose de différent. Paul s'est toujours voulu juif, juif ou chrétien. Pour lui, la question ne se posait pas du tout dans ces termes. Juif parce que chrétien, ou chrétien parce que juif. Jésus pour Paul est la nouvelle Torah qui révèle le véritable sens, le véritable caractère de l'ancienne. Romains 3, anéantissons-nous la Torah par la foi. Au contraire, nous l'établissons. Alors, dira-t-on, faut-il revenir au judaïsme? Non, c'est hors de question. Paul le montre d'une manière très claire aux Galates. Faut-il revenir à l'Église du Nouveau Testament et gommer tous les siècles d'histoire qui se sont écoulés? C'est impossible. Je viens de ce que disait M. Korsman, il y a très longtemps à Jérusalem, quand il mettait en évidence toutes ces erreurs qu'il y a dans les églises chrétiennes, accumulées par les siècles. Et il m'arrivait de lui dire, mais alors pourquoi on ne revient pas à ce qui se faisait? Et il avait une boutade, il me répondait, le temps des réformes est passé. Je ne suis pas un Luther, disait-il, je ne suis pas un Calvin. Il y a des choses qui sont irréversibles. Et nous n'allons pas revenir, comme le font, comme pensent pouvoir le faire les adventistes, au Shabbat plutôt qu'au dimanche, tout en sachant que le dimanche est une erreur. Nous n'allons pas cesser de fêter Noël tout en sachant bien que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Nous n'allons pas cesser de fêter Pâques, selon les traditions de l'Église latine, tout en sachant que là aussi, ce n'est pas innocent cette affaire, etc. La déjudaïsation est allée trop loin dans les églises. Et aujourd'hui, l'Église est trop influencée par le monde et par la culture moderne. Mais ce que nous pouvons essayer de faire, et ce qui est essentiel, c'est d'essayer d'apprendre à penser et à lire la Bible judaïquement. Voilà, c'est ça le but. Il est modeste, mais si déjà nous arrivons à cela, ce sera déjà pas si mal. Alors voilà, si vous voulez, notre but dans cette étude, après avoir fait l'examen de tous ces doctrines, n'est-ce pas, ces doctrines de la substitution dans l'histoire de l'Église. Ça, on verra, donc Dieu voulant, l'an prochain. Voilà, si vous avez des questions à poser. L'étude du judaïsme, l'étude des sources anciennes, l'étude de la Mishnah et du Talmud, l'étude de la Kabbale, l'étude de toutes les études que nous faisons là, l'étude de la langue hébraïque, voilà, c'est tout simple. Le contact avec les Juifs, le contact avec Israël. Alors évidemment, non pas encore une fois pour devenir juif, et pour avaler sans critique tout ce qu'ils disent. Il faut au contraire une critique, soumettre toutes les sources juives à une critique très, très rigoureuse, et une critique qui est basée essentiellement justement là, sur le Nouveau Testament, et sur l'Ancien aussi jusqu'à un certain point. Parce que les Juifs se sont aussi souvent éloignés de l'Ancien Testament. L'histoire juive, pourquoi étudions-nous l'histoire juive? C'est pas pour le plaisir, mais c'est parce que, encore une fois, nous l'avons vu, l'histoire juive, c'est notre histoire. D'une certaine manière, c'est notre histoire. Et nous avons à en apprendre. Quand on étudie la Kabbale, quand on a vu la Kabbale, il y a des choses imbuvables. Mais la Kabbale, il y a des traditions anciennes que le judaïsme officiel orthodoxe a éliminées, parce que c'était trop semblable au christianisme, mais que la Kabbale a gardé et qu'on peut retrouver quand on étudie la Kabbale. Et ça nous permet de mieux comprendre des notions comme les notions trinitaires ou bien des choses comme ça. Non plus que. Deux. Deux. Ah si, il y a des dangers, bien sûr. Voilà, ah ça, c'est sûr qu'il y a des dangers. Il y a des dangers. Des dangers, c'est un équilibre. C'est un équilibre et il faut que ce soit des docteurs qui fassent ça. C'est pas à la portée du. C'est pas le chrétien de base qui doit faire cette démarche. En tant qu'individu, en tant que chrétien de base. Eh bien, justement, à partir de ce que nous faisons ici, des études que nous faisons ici. Je crois que c'est ça. Si on fait ces études, c'est pour ça. C'est pour mettre à la disposition du chrétien de base un certain nombre d'éléments qui lui permettront justement d'avoir une approche autre de la Bible, une approche judaïque. Autre question ?
Par exemple, quand vous dites que souvent on incitait les gens à commencer par le Nouveau Testament, en fait, et par exemple, celui qui commence par la lecture du Nouveau Testament, il va avoir une surprise. Il tombe sur la généalogie de Jésus dans Matthieu. D'où ils sortent les personnages, c'est qui ça ?
D'où ça vient ? Et pourquoi faut-il un salut par la foi ? Pourquoi Jésus est-il mort ? Si on ignore le péché originel, l'histoire du jardin d'Éden et toutes ces choses-là.
C'est pas logique.
Mais non, c'est pas logique. Alors, volens nolens, eh bien, il faut une tradition orale pour lire le Nouveau Testament à ce moment-là. Et cette tradition orale, c'est ce que les pasteurs font dans les églises. Hein? Mais c'est sûr que si vous mettez directement le Nouveau Testament sous le nez de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile, et ça commence à être le cas de nos jours, hein, n'a jamais entendu parler ni de Jésus, ni de qui que ce soit, ça va lui sembler complètement absurde, complètement aberrant, ce qui est le cas d'ailleurs, et ce qui est la raison pour laquelle beaucoup se détournent de l'Évangile, parce que c'est totalement étranger à notre culture, et soudain on entend parler de donc Jésus, fils de David, fils de ci, fils de ça, Jésus, les paraboles, Jésus qui meurt sur la croix, qui ressuscite. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs complètement aberrants, quoi ? C'est vrai, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler, qui ne sait pas ce que c'est que Jésus, qui ne sait pas ce que c'est que le Nouveau Testament, qui sait rien, quoi. Comme c'est le cas, ça commence à être le cas aujourd'hui, même chez des gens qui ont une certaine éducation. Il tombe des nues, il ne comprend rien. Il peut rien comprendre au Nouveau Testament, il ne peut rien. Jusqu'ici, c'était plus ou moins compensé quand tu dis, tu fais cette allusion au conseil que donnaient les pasteurs et que donnent encore les pasteurs aujourd'hui, commencer par le Nouveau Testament. Parce que finalement, les gens avaient plus ou moins quelques vagues notions d'un catéchisme qu'ils avaient eu dans leur enfance. Ils savaient un petit peu ce que c'était que le péché originel, ils savaient un petit peu tout ça. Donc finalement, l'un dans l'autre, ils finissaient par se retrouver. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne connaissent rien. Et alors, dans notre culture déchristianisée complètement, déjudaïsée et déchristianisée, c'est le Nouveau Testament, c'est du charabia. C'est du charabia. Et au contraire, justement, aujourd'hui, donner des conseils à quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu, c'est de dire, commencez par l'Ancien Testament et après vous arrivez au Nouveau. Alors, on peut leur dire, bon, lisez d'abord le livre de la Genèse. La Genèse est très facile à lire, de toute façon. Bon, quand vous arriverez au Lévitique, vous pouvez peut-être effectivement le passer et puis revenir dessus plus tard. Mais enfin, commencez par ça, commencez par tous les livres où il est question d'histoire d'Israël, et tout ça, et puis à ce moment-là, vous arrivez au Nouveau Testament. Là, ça a un sens. Là, ça a un sens. On commence à comprendre un certain nombre de choses. Autrement, non. Qu'est-ce que vient faire ce Jésus ? Qu'est-ce que ça veut dire le Christ ? Qu'est-ce que ça veut dire le Messie ? Jésus-Christ, c'est donc comme Philippe Gaetner, donc Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Pour la plupart des gens, c'est ce qu'ils vont croire. C'est ce qu'ils vont croire. Ça ne veut rien dire pour eux. Alors, on s'acharne à faire des Nouveaux Testaments en français fondamental, où Jésus parle dans le verlan et le langage des banlieues. Bon, j'exagère un peu, mais on en viendra là. Il y a encore un peu de patience. Dans quelques années, on fera ça. Ça n'aide pas pour autant, c'est pas une question de langage, c'est pas une question de parler le langage de tous les jours, c'est une question de reculturiser les gens à la culture hébraïque. Mais on n'en veut plus de cette culture, on l'évacue. Bon. Voilà.